France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture, produit avec la collaboration d'Avril Ventura. Perré Legras en assure la réalisation, Marie-Claire Oubamadi, la prise de son. Ce soir, de la délinquance des quartiers populaires à la radicalisation identitaire, comment prévenir les violences chez les jeunes ? Deux parties dans cette émission, deux épisodes presque distincts que vous pourrez écouter à la suite ou d'une traite. Nous parlerons dans un deuxième temps de la radicalité identitaire avec Sébastien Bourdon, auteur de Drapeau noir, jeunesse blanche, qui vient de paraître au Seuil. Et puis culture de la marge, virilisme et passage à l'acte ultra violent. Régulièrement, des événements dramatiques nous saisissent et nous glacent. Drames causés par la violence extrême dont certains jeunes, surtout des jeunes garçons, s'avèrent capables.
Le secteur du lycée Rodin dans le 13e arrondissement de Paris a été le théâtre d'une rixe mortelle vers 8h ce matin. À proximité de l'établissement, un adolescent d'une quinzaine d'années a été poignardé à mort.
Vendredi soir 20h, Elias termine son entraînement de football. Accompagné d'un ami, ils quittent ce stade du 14e arrondissement. Sur leur chemin, ils rencontrent deux adolescents qui vont tenter de voler le téléphone portable d'Elias. Ce dernier résiste. Il va alors recevoir un coup de couteau à la clavicule. Emmené en urgence à l'hôpital, il succombe à sa blessure quelques heures plus tard. Il devait avoir 15 ans le mois prochain.
Voilà, le meurtre d'Elias a eu lieu le 24 janvier. Abbas est mort le 17 décembre à Paris. Dans le 13e et le 14e arrondissement, on va parler de ces faits et plus largement de cette violence, de ces crimes, de ces meurtres. Avec vous, Marwan Mohamed, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, chargé de recherche au CNRS, au centre Maurice Alvax. À vos côtés, Aude Julien, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes médiatrice sociale et éducative dans le département de l'Essonne. Première question, Marwan Mohamed, tout simplement. Est-ce que la violence est en augmentation chez les mineurs en France ?
Alors, de quelle violence on parle ? Parce que là, typiquement, on a eu deux exemples. Un exemple qui s'inscrit dans le cadre de ce qu'on appelle les risques, c'est-à-dire les rivalités entre quartiers. Mmh. Et le deuxième cas, avec le décès dramatique du jeune Elias, c'est-à-dire un vol avec violence qui s'est terminé par un drame. Déjà, c'est pas les mêmes formes de violence. On va parler de violence suprémaciste ou identitaire, ça dépend comment on les nomme. Et il y a d'autres formes de violence sexiste et sexuelle. Donc, quand on se pose la question globalement, est-ce que la violence augmente ou pas ? Il faut vraiment se poser quel type de violence. Et puis deuxièmement, quelle est la temporalité ? Là, on va prendre l'exemple des homicides. C'est deux homicides. Donc, c'est les violences les plus graves. Est-ce que les homicides augmentent, notamment chez les mineurs, ces 20 dernières années ? Non, ils n'augmentent pas. La seule différence, c'est qu'ils se rapprochent. Ils sont plus visibles. On en parle davantage. Et même, j'ai envie de vous dire, on en parle systématiquement. Vous savez, quand il y a un homicide, il y a un corps. Donc, en termes d'interprétation, c'est très compliqué de se dire comment les faits se sont passés. Il y a un corps, il y a eu un acte qui a abrégé la vie de quelqu'un. Et très souvent, là, dans le cas de figure, c'est un mineur. En 2023, les mineurs représentent un peu moins de 9% des personnes poursuivies et mises en cause pour homicide. Et quand on dit homicide, c'est à la fois tentative pour le droit, tentative également, complicité, donc c'est beaucoup plus large. Sur la période 2001-2021, la part des mineurs est en moyenne de 7%. Donc quand on regarde leur part dans la population, les mineurs sont sous-représentés parmi les auteurs d'homicides, c'est-à-dire les actes de violence les plus graves. Est-ce que il faut s'en satisfaire ? Est-ce que la situation est acceptable ? Non. Est-ce qu'il faut se mobiliser ? Oui. Est-ce qu'il faut prendre ça au sérieux ? Oui. Mais est-ce que ça explose ? Est-ce que ça explose sur les dernières années ? Non.
Et en même temps, ce n'est pas une raison, effectivement, pour ne pas en parler. Est-ce que cela signifie que, par exemple, la mort d'Abbas, si on parle des bandes, ou de celle de Chemseddine, c'était dans l'Essonne, en avril dernier, on n'en aurait pas parlé dans les actualités, je ne sais pas, au début des années 2000 ou dans les années 90 ?
Non, on en a beaucoup parlé dans les années 90, on en a beaucoup parlé dans les années 2000 et on en a beaucoup parlé dans les années 80. Et toutes les archives sont disponibles sur le site de l'INA, sur le site
de
la presse.
Alors qu'est-ce qui provoque chez nous ce sentiment d'augmentation ? Parce que je crois que ce sentiment est assez partagé. Est-ce que c'est la peur ? L'effroi qui nous saisit quand on entend parler de ce que j'ose même pas appeler des faits divers, tellement voilà, cette violence, moi, personnellement, me frappe. Ou est-ce que c'est parce que ce sont justement des mineurs, et dans ce cas-là, c'est très bien qu'on ne s'habitue pas. Est-ce que c'est parce qu'on projette aussi une certaine vision de la société ?
Sur le décès d'Elias, très, très clairement, qu'un adolescent sorte, qu'on lui agresse, qu'on lui prenne son téléphone portable et que ça se termine par un drame, je pense que c'est l'angoisse de tous les parents d'adolescents vivant en ville ou hors de ville. Donc les possibilités de transfert, de projection sont très très importantes par rapport à ce type de phénomène. Beaucoup plus par exemple que pour des règlements de compte où l'idée qui domine c'est que c'est grave mais ceux qui décèdent sont ceux qui sont impliqués. Vous voyez ? Là, pour le coup, Elias, ça aurait pu être un autre gamin. Maintenant, sur la question de la première question que vous posiez sur... j'ai un trou de mémoire.
L'augmentation, l'effet que ça produit.
L'effet que ça produit, voilà. Je pense qu'on a oublié de la manière dont on en parlait dans les années 80-90. On a eu des fortes périodes de médiatisation de ces violences-là, avec le champ politique national notamment qui s'en saisissait, en plus du champ politique local. Ce qui change fondamentalement pour la période actuelle, je pense qu'il y a deux choses qu'il faut avoir en tête. La première, c'est que ces violences se rapprochent parce que la plupart de ces violences sont filmées. Beaucoup de ces violences sont filmées. Ça veut dire que les violences dont on entendait parler, elles nous arrivent dans notre poche sous forme de vidéo, c'est-à-dire
oui,
cette violence, elle
sociaux.
Est filmée, diffusée, viralisée. Et ça, ça change le rapport du plus grand nombre à ces violences de proximité, parce que émotionnellement, c'est pas la même chose d'entendre parler que de regarder quelque chose qui s'est passé à trois pâtés de maison ou à deux pâtés de maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc le rapport visuel, émotionnel à cette violence change. Et puis la deuxième chose, c'est que dans les années 80-90, on n'avait pas autant de chaînes d'information en continu, pas autant d'outils numériques de diffusion, de récits de ces violences-là. Et que du coup, forcément, il y a un effet d'amplification, surtout qu'on est dans un moment très néoconservateur, très conservateur sur le champ politique, et que pour les droites, de manière générale, et pour les extrêmes droites, cette violence de rue, c'est un peu un Viagra électoral. Donc, plus de canaux de diffusion et un champ politique qui a clairement viré à droite et qui surinvestit chaque fait divers qui peut être investi.
Et pourtant, sur France Culture, où on n'adopte pas comme ça de parti pris politisé, on a en tout cas... pas comme ça, de manière franche, par rapport aux chaînes d'infos dont vous parliez, Marwan Mohamed, on a aussi envie d'en parler. C'est pas la première fois que j'en parle dans cette émission. Je trouve extrêmement intéressant d'explorer ce sujet. Aude Julien, vous êtes sur le terrain, vous êtes avec les adolescents. Je pense que eux-mêmes sont très fort frappés par ces événements quand ils se déroulent, plus ou moins près d'eux. L'Essonne est un département concerné qui a mis en place d'ailleurs des préventions avec des dispositifs parce que cette réponse est aussi aujourd'hui demandée par les acteurs locaux. Alors, est-ce qu'il y a augmentation ou pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui change dans la réponse.
Alors oui, pour contextualiser, effectivement, le département de l'Essonne a lancé un dispositif expérimental de médiateur scolaire qui a été adopté depuis 2022. C'est un dispositif qui vient s'inscrire dans le plan départemental de lutte contre les RICS porté par la préfecture de l'Essonne, aussi dans le schéma directeur sécurité et prévention des violences et de la délinquance. Et il vient en réponse à ce phénomène de RICS, notamment l'Essonne compte un quart de ce phénomène sur le territoire national. Donc cette action phare, en fait, elle vient vraiment contribuer à la qualité du climat scolaire. Et donc l'objectif, à travers ces personnels qui sont formés, et que oui, moi j'accompagne sur le terrain, c'est vraiment d'apporter aux côtés des personnels des établissements un soutien supplémentaire, et notamment sur cette question de la prévention des violences et de la gestion des conflits. Et donc, pour rejoindre effectivement ce que disait Marwan, cette perception de la violence ambiante, elle se vit aussi chez ces jeunes qui vivent aussi dans ce climat de peur. Donc les projections sociétales, ils les vivent aussi. Et c'est vrai que ce qui peut ressortir de nos échanges de pratiques sur le terrain, c'est vraiment ce réflexe de protection. Être prêt à réagir à n'importe quel moment parce que eux aussi ils vivent dans la peur. On a aussi un autre type de discours qui peut ressortir, c'est cette loyauté envers le système dans lequel ils évoluent. C'est-à-dire qu'ils ont le sentiment de pas trop avoir le choix. Ils adoptent en fait les codes de l'environnement dans lequel ils évoluent.
Quartier, de leur quartier d'appartenance.
Voilà, du quartier, de la cité, voilà ce qui pourrait ressortir. Et en fait, pour eux, pour être respectés, être intégrés dans ce système, voire même ils survivent, il faut qu'ils adoptent les codes. Et puis on a aussi un autre versant et qui est aussi très en lien avec le développement de l'adolescence et qui joue sur l'estime de soi, c'est l'image qu'ils peuvent avoir au milieu de leur père. Et donc c'est important pour eux de paraître le plus fort, parce que à la fois, si je parais le plus fort, on va pas trop m'embêter. Et puis, si je parais le plus fort, je vais aussi être beaucoup aimée par les autres. Et donc, cette image que j'ai au milieu des pères a une forte importance et du coup, peut conduire à des comportements qu'ils n'avaient pas forcément évalués au préalable et donc conduire à des réactions immédiates et du coup, violentes.
Avec cette validation entre pairs dont vous parlez, dans votre dernier ouvrage, Marwan Mohamed, il y a Embrouille, sociologie des rivalités de quartier, ouvrage hyper intéressant. D'abord parce qu'il est très sourcé et puis il écrit dans un style personnel. Moi, ça m'a beaucoup plu, donc c'est nourri de connaissances. Il y a aussi des hypothèses que vous émettez pour nous faire réfléchir. Je voudrais qu'on parle de ce cadre. Alors, il y a des quartiers... politique de la ville, quartier prioritaire, mais pas seulement. Ça peut être en zone rurale, les histoires de rivalité territoriale, ça peut être en zone périurbaine. Qu'est-ce qui caractérise les endroits où se jouent ces violences entre bandes qui alimentent aussi toute une violence de tous les jours qui touche en premier aussi les jeunes?
Déjà, c'est bien de rappeler qu'il faut différencier les territoires. Il n'y a pas de rivalité de quartier à Marseille, il y a d'autres violences, mais pas celle-là. Il y en a beaucoup en Île-de-France, notamment dans l'Essonne, avec un niveau de densité des rivalités de quartier dans l'Essonne qu'on retrouve dans peu de territoires. Le niveau de densité, ça veut dire le nombre de fronts existants par ville. Voilà. Donc ça, les acteurs qui agissent dans le territoire de l'Essonne, ils ont cette difficulté particulière. Deuxième chose importante, et qui a été soulignée juste avant, faut pas sous-estimer. C'est-à-dire, au-delà des violences les plus graves, vous avez l'existence de phénomènes comme celui-là qui entravent le quotidien de beaucoup d'adolescents et adolescentes, notamment les mobilités urbaines. Dans les bassins de rivalité, les adolescents qui vivent dans tel ou tel quartier ne peuvent pas se déplacer comme ils veulent. C'est-à-dire que leur liberté de se mouvoir dans la ville, elle est très entravée, ce qui est une perte de chance. Et pour vous donner un peu l'ampleur, j'aimerais citer 2-3 chiffres tirés de la thèse d'Audrey Teco. C'est une jeune docteure maintenant qui vient de soutenir il y a 2 semaines. Et elle a fait une enquête de climat scolaire. Qu'est-ce qu'elle montre? Pour vous dire à quel point c'est important. Une enquête de climat scolaire par questionnaire. Et elle montre que 25% des élèves interrogés dans ces bassins de rivalité-là déclarent que les embrouilles de cité ont des conséquences sur leur vie. 15% des élèves déclarent avoir participé à une bagarre de cité, ce qui est considérable. 43% des élèves interrogés évoquent des violences dans les collèges à cause des embrouilles de cité. Autre chiffre, les faits établissements, ce que recensent les chefs d'établissement et qui font remonter à l'inspection académique ou au rectorat. 43% des faits établissements remontés dans les lycées de ce bassin de rivalité concernent les affrontements entre quartiers. C'est 30% pour les collèges. Ça veut dire que on ne parle pas d'un petit phénomène, indépendamment du nombre de morts. C'est des violences qui ont des conséquences invisibles et majeures. Et c'est assez nouveau que les collectivités parlent de schémas, de plans pour se mobiliser, ce qui est très intéressant.
Qui pourrissent la vie de collèges, de lycées pro. Et on les connaît, ces violences, c'est très dur pour les enseignants. Mais vous ne m'avez pas tout à fait répondu sur ces histoires de quartier. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi, par exemple, je prends l'exemple de Paris, c'est la ville où je vis, on a parlé de l'Essonne. Pourquoi est-ce qu'à l'intérieur du 13e arrondissement, entre deux quartiers qui se ressemblent, il y a des rixes qui se succèdent, un mort, et pas dans d'autres quartiers en banlieue, parfois plus pauvres? Pourquoi là et pas ailleurs? qu'est-ce qui se passe? Quelles frontières on n'arrive pas à visualiser dans la ville? Est-ce que c'est l'histoire de ces quartiers? Est-ce que ça se joue sur voilà une espèce de patrimoine de conflit? Est-ce que c'est l'aménagement urbain qui l'explique? Parce que, comme on l'a dit, les zones sont très différentes. Donc, on n'arrive pas à comprendre. Et je pense qu'on a besoin de comprendre. Bien sûr, il peut y avoir des réponses pénales, plein de... Voilà, mais pour prévenir, il faut quand même aussi comprendre.
Bah, d'abord, ça implique, vous savez, la scène d'affrontement de ces violences-là, ça implique majoritairement des garçons. Ça veut pas dire que les filles ne participent pas. Les filles participent, mais pas forcément sur la scène d'affrontement. Il y a d'autres rôles, malheureusement, dans ces rivalités de quartier pour qu'elles existent. Engrainées, protégées, mais... Et là, tous ces rôles-là sont très mixtes, en fait. On retrouve des filles et des garçons. Deuxièmement, le profil des jeunes qu'on retrouve le plus impliqués, et c'est un petit nombre de jeunes, hein. Faut le rappeler, on parle d'un petit nombre de jeunes par quartier, c'est 10-15 jeunes, mais le phénomène se reproduit. C'est-à-dire qu'il y a de la transmission, comme vous venez de dire. Et cette transmission, elle est extrêmement importante. Troisièmement, le profil, c'est majoritairement des jeunes en grande difficulté scolaire précoce. Et ça, c'est le premier marqueur qui ressort, vous savez, de ceux qui sont impliqués.
Ça veut dire dès le collège, en fait.
En fait, moi, plus de la moitié des jeunes que j'ai interrogés dans ce cadre-là sont en grande difficulté depuis le début du CP. C'est-à-dire que c'est même pas des décrocheurs, c'est des non-accrocheurs scolaires. Qui deviennent des patates chaudes qu'on se renvoie d'année en année. Ils sont surreprésentés dans ces phénomènes-là, ces phénomènes de bande. Donc, le cœur du problème, je pense, est là. Hein, c'est vraiment la variable numéro un qui ressort. Vous avez des territoires aussi, et ça, c'est important pour répondre à votre question, dans lesquels la manière de se construire une identité sociale et le rapport au territoire là-dedans est très particulier. Il y a un anthropologue qui s'appelle David Lepoutre, qui avait travaillé, fait une recherche sur les 4000. David Lepoutre, il utilise une expression qui se trouvait très parlante, qui est le fait qu'il y a dans les quartiers, notamment d'Île-de-France, ce qui prédomine, c'est le nationalisme de cage d'escalier. C'est-à-dire des espèces de micro-identités très très fortes, basées sur le quartier, voire infra-quartier, et un hyper-localisme qui permet et qui rend possible la construction d'identités collectives, d'identités guerrières, et derrière le fait de rentrer en conflit pour des enjeux de respectabilité qui ont été bien présentés tout à l'heure. Alors qu'à Marseille, vous avez, et ça c'est une hypothèse, il faut aller vérifier, une identité marseillaise qui couvre, qui tempère, qui rapproche et qui fait identité collective. C'est une identité qui est extrêmement importante. Par exemple, l'identité essonienne n'a pas du tout la même centralité pour les jeunes qui vivent dans l'Essonne que les jeunes marseillais.
Et l'identité parisienne, visiblement non, puisqu'il y a une grande histoire de rivalité de bandes. 14e, 18e contre 19e, ce sont aussi des faits que les Parisiens ou les enseignants qui sont dans les collèges et lycées parisiens peuvent connaître. David Lepoutre, c'était en 1997, Cœur de banlieue, c'est un sociologue. Est-ce qu'on avance un peu sur ces sujets ou est-ce que, justement, des plans, cette idée d'intervenir dans l'école, qui est quand même intéressante, puisque c'est là où il y a tous les jeunes, pourrait permettre un changement? Est-ce que vous le sentez? Parce qu'on a besoin d'avoir ces réponses et surtout de dialoguer avec les jeunes les plus violents. Ils ne sont pas très nombreux. Mais c'est peut-être aussi avec eux qu'il faut parler. Est-ce que vous accédez à ces enfants, ou Julien ?
Alors oui, puisqu'à travers la mission de médiation scolaire, effectivement, l'idée était vraiment d'intégrer un personnel qui soit tiers à l'éducation nationale, mais qui puisse intervenir directement au plus près des jeunes. Donc, concrètement, sur le terrain, comment ça se matérialise ? Ça se matérialise par une forte présence directement en lien avec les élèves pour créer un vrai lien de confiance avec eux. Aux côtés aussi de tous les professionnels qu'on peut retrouver dans un établissement scolaire, aux côtés des familles et à travers des dispositifs qui sont portés par l'éducation nationale, mais où le médiateur va trouver toute sa place, comme les dispositifs où on peut accompagner des élèves qui sont en décrochage scolaire. On va avoir des dispositifs aussi d'inclusion pour les élèves à besoins spécifiques. Et donc, au travers de ces différentes missions, en tout cas, le médiateur va vraiment tenter d'établir une vraie coordination et de vraies actions un peu plus concrètes avec les élèves concernés.
Ça veut dire qu'on peut prévenir des événements ultra-violents grâce à cette action de terrain, parce que là vous parlez de votre pratique professionnelle, donc on sent voilà c'est une pratique professionnelle, il y a un tout petit peu de jargon forcément, un cadre, mais Voilà, est-ce qu'on peut éviter des situations graves grâce à une action, des mots qu'on va poser, un contact avec des jeunes?
Oui, d'autant que, alors oui, parce que sur le terrain, alors les médiateurs, par exemple, ça a son importance, disposent d'un espace. Donc d'un bureau fléché médiation, et du coup les élèves peuvent y venir spontanément. Et tout le travail qui a pu être mis en place par ce professionnel dès qu'il arrive en établissement, de confiance avec les élèves, va permettre de libérer la parole. Et donc dès qu'il y a de l'agitation ou dès qu'il y a un sujet, la confiance établie permet que les élèves viennent pour dire écoute, sur les réseaux il se passe ci, il y aura peut-être un rassemblement telle rue plus bas. Et donc à ce moment-là, c'est là que toute la synergie partenariale va se jouer. Le médiateur, il peut en faire référence directement à la direction de l'établissement, faire le lien à mon niveau, je peux centraliser au niveau du département, et c'est comme ça que l'information peut se transmettre assez rapidement.
Il faut que les ados vous parlent là où vous êtes pour que cette information...
Mais le médiateur aussi a un travail d'aller vers. Donc ça fait partie de la mission du médiateur et il est en veille permanente.
Ça veut dire aussi qu'il faut être ailleurs qu'à l'école,
dire qu'il faut aussi être en lien avec les autres. Alors, de notre positionnement médiation, oui, nous sommes en interne, mais il faut aussi l'extérieur. C'est vraiment un travail de collaboration de l'interne vers l'externe.
Marwan Mohamed, alors, on a parlé Abbas, tué à l'arme blanche. Elias a été tué avec une arme blanche. Vous nous dites que c'est très différent. Est-ce que les jeunes les plus violents qui sont dans des bandes ou qui sont à ces moments-là violents, parce que vous dites il y a tout un répertoire en fait d'actions, de personnalités, on va être d'une certaine manière parfois à l'école, d'une autre manière dans sa bande. C'est pas du tout les mêmes personnes ou est-ce que c'est un peu le même genre d'ado? Est-ce qu'ils se connaissent? Est-ce que on sait pas grand-chose pour l'instant de ceux qui ont tué Elias et on a du mal à analyser ce type de profil parce que voilà, c'est des jeunes qui traînent pour faire du racket. Alors ça a toujours existé, mais enfin faut avoir un couteau qui permet de tuer quelqu'un, c'est quand même pas rien. Donc qui sont-ils? Est-ce que vous avez une idée sur la question?
Alors sur les deux cas en question, moi j'ai pas accès au dossier, donc je peux pas répondre. Et puis l'enquête va être longue, comme
aussi
pour toutes les affaires d'homicide. Donc je pense qu'il faut prendre, il faut attendre en fait d'en savoir davantage, même si je pense que les autorités ou les services sociaux en savent déjà beaucoup. Maintenant, qui est impliqué? J'ai parlé tout à l'heure du profil. Je voudrais dire quand même un mot sur le couteau, parce qu'on a dit le couteau pour tuer. L'usage du couteau, d'abord, il est pas nouveau. Il est vraiment pas nouveau. Moi, j'essaie de faire un peu un suivi sur le long terme des rivalités, notamment des morts liées à ces rivalités. Depuis les années 90, c'est dur parce qu'il faut travailler sur l'archive presse, mais on arrive quand même à remonter à beaucoup d'affaires. L'usage du couteau, il est récurrent, malheureusement. Donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau, même si on en parle davantage aujourd'hui. Il est récurrent, il faut le rappeler. Deuxièmement, il y a une arme qui était assez utilisée dans les années 90 et dans les années 80 par rapport à ces rivalités de quartier qui a à peu près disparu, c'est le fusil à pompe. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'échanges de violence avec des fusils à pompe. Et à Évry, par exemple, dans l'Essonne, en 94, il y a un adolescent qui s'appelle Romuald, qui n'était pas du tout impliqué, qui est mort de cette manière-là. Et donc, il y a d'autres villes où ça s'est passé. Donc, il y a des armes qui ont un peu disparu, comme le fusil à pompe, des armes récurrentes qui sont sur le couteau. Et l'usage du couteau, il faut quand même bien distinguer deux choses. Vous avez des jeunes qui portent un couteau pour aller agresser, voire pour aller tuer. Déjà, les jeunes qui sortent avec un couteau pour aller tuer, c'est très rare. Des jeunes qui sortent avec un couteau pour faire peur, c'est-à-dire pour prendre le pouvoir sur leur victime et récupérer un téléphone, ça, c'est très, très, très fréquent. Et des jeunes qui pensent porter des coups sur une épaule ou une cuisse et qui ne savent pas les dégâts que peuvent porter ces coups, les dégâts pour la santé, il y en a énormément. Donc, je pense qu'il faut faire attention avec... Il faut distinguer l'arme et l'intention de tuer, qui sont deux éléments. Et puis, plus généralement, qu'est-ce que ça veut dire de sortir avec un couteau? Ça veut aussi dire que on se sent pas en sécurité, on est dans une situation d'adversité, et l'une des conséquences des rivalités de quartier, c'est d'amener beaucoup de jeunes à se protéger de la mauvaise rencontre. Et l'une des manières de se... Il y a trois manières de se protéger. La première, c'est de ne pas sortir du quartier. La deuxième, c'est de sortir à beaucoup. Et la troisième, c'est de sortir armé. Donc on a beaucoup d'ados qui sortent avec des couteaux ou d'autres armes dans leur sac à dos, non pas parce qu'ils ont un but, ils veulent aller voler un téléphone portable, c'est juste que au cas où, c'est ce qu'ils répètent, au cas où, ils font la mauvaise rencontre. Je veux dire, dès lors qu'on travaille sur l'adversité, qu'on réduit cette peur, cette crainte, ces rivalités de quartier, parce que c'est réversible, on a des exemples où ça a été inversé, et y compris en Île-de-France, et y compris dans des quartiers où ça durait depuis 20 ans, 30 ans, il y a un travail de fond qui a été fait par des acteurs de terrain qui sont parvenus à inverser la tendance. La conséquence de ça, c'est qu'on a des mômes qui se réapproprient la ville, qui n'ont pas besoin de sortir armés, qui n'ont pas besoin de sortir à beaucoup, mais parce que la situation s'est pacifiée. Donc c'est pour ça que même dans l'usage du couteau, ça dit beaucoup du climat, l'adversité dans lequel les jeunes évoluent.
Mais cette inversion et cette possibilité de revenir à une situation apaisée, ça demande de la présence humaine, comme Julien, des médiateurs, médiatrices, des moyens, de la police de proximité. Bon, maintenant, c'est plutôt de la police municipale, et encore, elle n'est pas toujours de proximité, en fait. Donc, quels sont les répertoires d'action qui fonctionnent ?
D'abord, aucun policier n'est parvenu à inverser la tendance sur le terrain. Ce que font les policiers, c'est du renseignement, pour alerter, pour éviter. Ils font de la dissuasion. Des fois, ils entendent qu'il y a un renseignement, ils interviennent pour éviter un affrontement, ce qui est important. Hein. Et ils font également du travail judiciaire. C'est les trois fonctions de la police. Mais les policiers ne parviennent pas à faire la paix sur le terrain. Ceux qui parviennent à vraiment agir sur le long terme et en profondeur, c'est tous les acteurs de l'intervention sociale. Médiateurs, animateurs, éducateurs, quand il y en a de moins en moins, malheureusement, par décision politique, des responsables associatifs, des clubs sportifs, des habitants, des enseignants, parfois des CPE hyper investis. En fait, c'est toute une série d'acteurs. Dès lors qu'ils se fédèrent sur la base du partenariat, qu'ils investissent le temps long, parce que ça se règle pas en 6 mois, hein, 30 ans de conflit entre deux quartiers, qu'ils investissent le temps long, qu'ils se coordonnent et qu'ils ont vraiment un plan d'action sur le long terme, il est possible d'envisager des choses. Et vous savez pourquoi il est possible d'envisager des choses ? Parce que même pour les jeunes qui sont impliqués, les rivalités de quartier, c'est une charge mentale. Voilà. Même pour ceux qui sont impliqués, c'est lourd.
On imagine bien. Dernière question sur la posture. La posture à adopter vis-à-vis des jeunes pour être écoutée. Alors, c'est dans le livre de Marwan Mohamed, il y a Embrouille, mais c'est à vous que je pose la question, Julien. Il faut être en mesure de se faire entendre. C'est-à-dire que il faut peut-être avoir certains codes, les comprendre, pouvoir utiliser le vocabulaire des jeunes, mais aussi en utiliser peut-être un adapté, je ne sais pas forcément lequel, c'est pas mon métier, c'est le vôtre, donc racontez-moi.
Alors oui, bon, avant tout, il faut pouvoir comprendre leur langage, et puis après, on peut aussi reformuler, hein, j'aime bien l'expression qui dit leur apprendre les mots du savoir. Et donc du coup, ça n'empêche pas le lien, je crois que c'est vraiment la question de la disponibilité. Et du temps qu'on leur accorde en termes d'écoute active. Et c'est l'une des qualités essentielles en médiation, c'est pouvoir être à l'écoute et prendre le temps avec les jeunes. Et c'est ce que font les médiateurs. Et je pense que c'est ce qui permet d'établir vraiment ce lien particulier avec eux. Et puis, il y a ce petit plus aussi en milieu scolaire. Par exemple, les médiateurs, on n'a pas de pouvoir de sanction. Et donc il y a cette épée Damoclès qui sort, hein, et qui du coup permet que les élèves se sentent plus libres de dire des choses lesquelles ils diraient pas à un conseiller principal d'éducation ou en vie scolaire, de peur d'être sanctionné. Donc c'est vrai que, et puis on est aussi sur de la ludopédagogie, des projets collectifs, donc en fait pouvoir fédérer aussi les élèves sur cette partie qui est moins pédagogique, mais où on va travailler les savoir-être, les compétences sociales, s'intéresser à l'élève dans son entièreté, au-delà de son côté élève, mais à ce jeune dans la sphère scolaire, c'est vraiment un plus.
Pardonnez-moi, mais quand on voit comment ces événements sont traités, par exemple sur les chaînes d'info, avec beaucoup en fait de résonance judiciaire, hein, on réfléchit à la justice des mineurs plutôt qu'à la prévention. Évidemment, la sanction, et c'est pas notre débat ce soir, ça peut exister, mais ça fait pas forcément prévention. Est-ce que vous sentez que ce que vous faites, votre manière d'agir, c'est dans l'air du temps, ou est-ce que vous vous sentez décalé, alors pas forcément qu'en Essonne, mais par rapport à ce que vous entendez, hein, circuler dans la société, Julien ?
Non, je pense qu'il faut des deux. En fait, c'est un travail complémentaire, même si, oui, la prévention, elle vient en amont, mais en fonction du résultat, on adopte d'autres solutions. Mais c'est important quand même de faire ce travail de prévention. Aujourd'hui, sur le terrain, les retours sont assez positifs. Je vais pas vous donner des chiffres, mais en tout cas sur l'effort qui est mis et sur les activités qu'on peut déployer au travers de ce dispositif de médiation, on voit vraiment qu'un travail de prévention est essentiel et c'est l'atout principal,
c'est-à-dire ce que Marouane moi-même.
Tout à fait, et c'est un travail qui doit se faire en synergie. Il y a la médiation, ok, mais la médiation vient s'ajouter à d'autres actions, et c'est vraiment un plan préventif beaucoup plus large qui doit être mis en œuvre. Et donc, en tout cas, nous, au département de l'Essonne, à travers ce dispositif, on essaye d'apporter quelque chose d'innovant.
Dispositif de médiation. En un mot, pour conclure, Marouane Mohamed, parce que c'est dans l'air du temps, même question, à l'heure où on parle beaucoup de répression, vous avez évoqué le sujet tout à l'heure, on parle de changer l'ordonnance de 45 sur la justice des mineurs. Est-ce que la médiation a un avenir dans notre société?
D'abord, de dire que ce système de médiateurs en milieu scolaire, je crois que ça existe déjà dans les Hauts-de-Seine. C'est le premier département de l'Île-de-France à l'avoir mis en œuvre. Ouais. C'est important parce qu'il faut aussi quelqu'un qui fasse le pivot avec le territoire, avec les acteurs de la rue, les acteurs du territoire. Et je pense que c'est un bon dispositif. Est-ce que ça a un avenir? Mais c'est absolument essentiel. C'est absolument essentiel. Mais pour que ça puisse être entendu, je pense qu'il faut arrêter de limiter les enjeux de sécurité aux enjeux de pénaux, aux acteurs de la chaîne pénale. C'est-à-dire que quand on pense sécurité, on pense police, gendarmerie, justice. Et on déconnecte la question de la sécurité de manière générale, de la question de la prévention et de l'action sur le long terme. Une bonne politique de sécurité, je ne vais pas dire une bonne politique de prévention, une bonne politique de sécurité, ce serait peut-être de réduire le vivier de ces dizaines de milliers d'enfants qui chaque année arrivent en CP, notamment des milieux et des familles les plus modestes, et sont déjà en grande difficulté scolaire et qui ont déjà des écarts avec le niveau attendu. Ça, on le mesure parce qu'il y a des tests maintenant tous les ans. CP, CE1, maintenant, c'est tous les ans. Donc, on peut mesurer ces écarts et que ces écarts sont difficilement rattrapés. Il est là le vivier social de cette petite délinquance dont on parle, de ces bandes de jeunes dont on parle. Il est là le vivier social. Réduire le vivier, ça aura des effets sur long terme. C'est un bon investissement et c'est une bonne politique de sécurité. Vous voyez ? Donc, c'est comment est-ce qu'on pense la sécurité et voilà.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
On va continuer d'explorer la violence contemporaine. Ce soir, violence des jeunes et des jeunes garçons principalement. Sébastien Bourdon, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au Monde. Vous venez de publier Drapeau noir, jeunesse blanche, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radical. Le livre a paru au Seuil le 24 janvier et vous vous intéressez à une autre forme de violence dans l'actualité. C'est une violence politisée qui a une expression dans l'espace public qui n'est pas forcément extrêmement médiatisée mais qui l'est peut-être de plus en plus. On parle de jeunes gens qui abordent des symboles fascistes, voire nazis, qui glorifient une forme de violence politique et aussi surtout physique avec des sports de combat, par exemple. C'est une vieille histoire pour qui a fréquenté, par exemple, les universités comme moi dans les années 90. Le GUD, qui est un groupe d'extrême droite étudiant, a été créé en 68. Il a été dissous en 2024. Qu'est-ce qui est nouveau aujourd'hui, 2024-2025, alors que ce groupement a été dissous par Gérald Darmanin, dans cette expression d'une forme de violence politique, en tout cas de radicalité, qui revendique la violence?
Alors, ce qui est nouveau, vous venez en fait de le mentionner. Ce qui est assez nouveau sur ces dernières années, c'est la question des dissolutions. Depuis 2019, on a eu toute une série de dissolutions d'un certain nombre de groupes d'extrême droite. Ça a différents effets, et parmi les effets, ça entraîne une recomposition très forte de cette extrême droite radicale en France. Il y a plein de nouveaux groupes qui se créent. Ça entraîne une porosité grandissante entre les différents groupes. Qui dit porosité grandissante dit que potentiellement différents groupes vont venir se prêter main forte à certaines occasions pour notamment faire des descentes racistes, et donc au lieu d'aller faire la descente raciste à 15 ou 20, ils vont y aller à 40, 50, 60, 80. Donc évidemment, en termes de potentiel de violence, ça décuple tout ça. Et puis par ailleurs, par rapport aux années 68 ou même 80, il y a ce qu'on a en toile de fond. Le terme, par exemple, du grand remplacement et la diffusion, entre autres, à travers ce terme, mais d'autres également, des idées d'extrême droite dans la société et au-delà simplement des sphères extrême droite, ça, c'est quelque chose qui a changé et qui, évidemment, a des effets, des répercussions sur le potentiel de passage à l'acte violent et l'activité de ces groupuscules.
Ce que revendiquent ces jeunes, c'est le fait d'être blanc.
Tout à fait, c'est le point d'orgue. Parmi les autres effets de la dissolution, c'est le fait qu'ils se mettent de plus en plus d'accord. Là où historiquement, ou en tout cas jusqu'à il y a quelques années, il y avait différentes structures, je vais pas rentrer dans le détail, mais trois structures principales actives à l'échelle nationale pour trois courants d'extrême droite ou d'extrême droite radicale. Deux de ces trois structures ont été dissoutes. Les nouvelles structures qui ont été recréées se territorialisent, donc on recrée, les militants recréent des plus petits groupes actifs uniquement à l'échelle locale, et puisqu'il y a moins d'enjeux de concurrence à l'échelle nationale entre les structures, eh ben, ils se rendent compte que dans le fond, ils sont tous d'accord, et qu'ils sont tous d'accord sur quoi? Sur le fait que, d'après eux, le problème principal en France à l'heure actuelle, c'est la question du grand remplacement, et derrière la question du grand remplacement, dans leur logiciel de pensée, c'est la question de la race, et donc de préserver la pureté de la race blanche.
Alors, ils ne pensent pas tous pareil. Ça veut dire quoi? Ce sont des nationalistes, ce sont des royalistes. Ça ne veut pas dire que tous les royalistes sont embarqués là-dedans. Non pas que je cherche à les défendre, mais ce sont vraiment des mosaïques hyper diverses. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée de cette diversité, Sébastien Bourdon?
Alors pour les trois courants, donc il y a en effet les royalistes, peut-être les plus connus du grand public, les nationalistes révolutionnaires, courant notamment très longtemps incarné par le GUD, et le courant identitaire. Je l'ai dit, et de plus, c'est pas complètement nouveau, mais en tout cas ça s'accélère, ils sont de plus en plus d'accord sur un certain nombre de choses, notamment cette question de la race. Ce qui variait ces dernières années, c'était notamment la question du mode d'action. Si on prend le courant identitaire, jusqu'à il y a peu incarné par le groupe Génération Identitaire, dissous en 2021, le courant identitaire avait un peu pris le contre-pied du GUD, notamment, avec cette idée d'avoir une vitrine et une apparence respectable. Une formule qu'ils aimaient beaucoup utiliser, c'était de dire qu'ils voulaient être l'extrême droite qui fait pas peur aux grands-mères. Ils ont essayé de ne pas faire peur aux grands-mères, ils ont eu recours, donc, en tout cas, officiellement à des stratégies d'agit-prop, des happenings médiatiques, avec un certain nombre de succès de ce point de vue-là, mais en tout cas, officiellement, Génération Identitaire n'avait pas recours à la violence. Génération Identitaire a été dissous, et donc, entre autres, ça permet à un certain nombre de ces militants, pour le coup, d'assumer maintenant plus clairement le recours à la violence et d'aller en direction de structures plus violentes.
Alors, j'ai une double question. Est-ce que ce qui plaît à des jeunes, essentiellement des garçons, ça c'est une partie de ma question, c'est de pouvoir endosser la figure du renégat? Parce que ça, c'est séduisant. Et quel est le rôle de la violence dans cette attirance que vont avoir certains de ces jeunes garçons et quelques filles ou pas? Dites-moi.
Alors, c'est extrêmement, dans l'immense majorité des garçons, des hommes, il y a de temps en temps des femmes, mais très souvent reléguées à un certain nombre de tâches, de rôles subalternes, ou en tout cas des tâches très précises, notamment ça peut être dans ce qui est la communication du mouvement. Les hommes vont faire l'action et les femmes photographier l'action et la diffuser sur les réseaux sociaux. En tout cas, c'est le cas pour différents groupes. Et ensuite, qu'est-ce qui est attrayant? Oui, il y a la question de la violence qui est attrayante et tout un imaginaire qui est associé à cette violence, ou en tout cas à ce qu'on, la façon dont ils veulent se représenter ayant recours à cette violence. Je me suis notamment intéressé dans mon travail à cette question de l'imaginaire, à un certain nombre des lectures. c'est difficile d'objectiver cette question-là. Il faut être assez humble quand on travaille sur l'extrême droite radicale, puisqu'il y a évidemment des difficultés d'accès au terrain. L'immense majorité des militants dont je parle, alors il y en a un certain nombre avec qui j'ai pu mener des entretiens, mais la plupart n'ont pas très envie de me parler, ni à moi, ni à beaucoup d'autres journalistes universitaires. Pour autant, sur la question des lectures, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est les dossiers judiciaires. Quand il y a des perquisitions, on a assez souvent le détail des bibliothèques des personnes. Et ben, il y a un certain nombre de livres d'auteurs, notamment, qui reviennent de façon extrêmement récurrente. Ce sont deux auteurs pas du tout connus du grand public. Je vais en citer deux, Jean Mabir et Saint-Loup. Saint-Loup, c'est un pseudonyme. C'est des personnes qui ont fait des romans, qui ont rencontré un certain succès et qui racontent de façon extrêmement glorifiée l'épopée presque formidable, quand on lit ces livres, c'est assez bien écrit, de la SS, et notamment des volontaires français dans la SS, la division Charlemagne pendant la Seconde Guerre mondiale, et ils racontent sur parfois des séries entières de livres les combats glorieux de la SS, et on en oublie quand on lit ces livres les idées de ce qu'était la SS et du nazisme. Il y a un côté très chevaleresque, il y a un côté un peu de cette fraternité de pirates d'esprit damné en rébellion contre la société, à rebours de l'air du temps, et qui malgré ça font corps et ont recours à la violence collectivement.
Mais ça rend presque un peu fou, folle, de voir que des idées, le nazisme, enfin tout simplement, la déportation et l'extermination des Juifs d'Europe, des Tziganes, des opposants politiques aussi, c'est passé presque comme un fait secondaire. C'est aussi Jean-Marie Le Pen, hein, qui a utilisé l'expression détail de l'histoire, et que finalement tout ça derrière les symboles, tels le salut nazi, alors Elon Musk aurait fait un salut nazi lors de l'accession au pouvoir de la passation de pouvoir de Donald Trump. Mais tout ça s'efface derrière une espèce de folklore qui emporte comme ça des jeunes. Alors, qu'est-ce qu'ils pensent finalement, si on peut accéder à ce qu'ils pensent, de ce côté, là, on est au-delà de la violence, c'est-à-dire qu'on parle de la Shoah, on parle de génocide, et pour s'adonner à un tel folklore. Parce que vous parlez de jeunes qui font des saluts nazis et qui portent des signes qui font clairement référence au nazisme aussi dans votre livre, Sébastien Bourdon.
Oui, bien sûr. Il y a, justement, vous venez de le citer, cette dimension folklorique, ça les fait rire par certains aspects. Il y a un côté provocateur. Il y a ce côté que je venais d'évoquer, un peu à rebours de l'ère du temps. Et dans le fond, si on creuse, il y a un certain nombre de chiffres ces dernières années, très intéressants, je pense, sur les questions de genre. On l'a dit, c'est essentiellement des jeunes hommes. Il y a notamment des choses qui sont montrées par le rapport du Haut Conseil à l'égalité, qui montre une polarisation genrée, et notamment la question autour de la question de la perception du féminisme. Il y a 37% des hommes qui considèrent le féminisme comme un danger, et c'est un chiffre en augmentation, et en augmentation notamment chez les jeunes. Et donc, derrière cette gêne face à de ces jeunes hommes face à ce qu'ils considéraient être un peu la doxa dominante, ou en tout cas la tendance de l'époque, il y a des imaginaires puissants véhiculés par notamment un certain nombre d'influenceurs, par des structures politiques qui circulent par
différents biais. Est-ce que ça veut dire que le masculinisme est une porte d'entrée? Alors moi, je pense à l'influenceur Andrew Tate, qui est mondialement connu, mais on en a en France aussi, l'idée de dire que les hommes doivent revendiquer plus de virilité dans la société, qu'on leur reconnaisse ça davantage. Enfin, je ne vais pas décrire tout ce que racontent les masculinistes, mais c'est une porte d'entrée vers cette radicalité fasciste, identitaire, enfin, vous lui donnez plusieurs noms.
C'est tout à fait une porte d'entrée, notamment la question du sport. Vous venez de parler d'Andrew Tate, qui est américain. Une autre influence américaine assez importante en France ces dernières années, c'est un phénomène qui s'appelle les Active Clubs. Les Active Clubs, qu'est-ce que c'est? C'est un réseau transnational de groupes de sport nationalistes. C'est comme ça qu'ils se présentent. L'idée, c'est de dire à des hommes, des jeunes hommes, essentiellement, ça vise un public jeune, si ce n'est très jeune, de dire, vous êtes mal à l'aise face aux évolutions de la société, vous savez pas vraiment comment vous construire en tant qu'homme dans cette société avec des injonctions contradictoires sur ce qu'est, ce que doit être, ou la masculinité, la virilité, etc. Venez vous regrouper, faites du sport collectivement, notamment des sports de combat, et c'est ça être un homme, avec derrière toute une imagerie fasciste, fascisante, parfois fasciste, parfois carrément nazi, et donc ça, entre autres, c'est une porte d'entrée.
Viens ici quand je te parle.
Mais fais-moi confiance, pas. C'est pas ce que tu crois.
Je crois rien, moi, je constate. Je crois rien.
Bah c'est ça, tu vois le problème. Tu crois en rien. T'obéis, tu fais comme tout le monde.
Je fais peut-être comme tout le monde, mais je traîne pas avec des racistes.
Mais ils sont pas racistes, pas plus que toi
mais
et moi.
Non, ils sont pas racistes. Ils sont juste contre les immigrés, mais à part ça, ils sont pas racistes.
Non mais ceux qui sont déjà là, y a pas de problème tant qu'ils restent calmes. D'accord? Mes potes à moi, ils sont comme nous. Ils sont carrés, ils sont droits, ils sont propres sur eux.
Ah oui, tu trouves qu'ils sont propres?
Ouais.
Moi, je trouve qu'ils sont sales. Ce qu'ils écrivent, c'est sale. Ils occultent tout ce qui bouge. Ils sont vulgaires en plus. Ils sont prêts à se battre contre tous ceux qui pensent pas comme eux. Même ceux d'une autre équipe. Ils sont sales, tes copains.
Écoute, je dis ce que je veux. Et je fais ce que je veux.
Non,
je vois qui je veux.
Non,
je suis pas en prison, là.
Soumets-toi, tu dis pas ce que tu veux.
Eh ben, enferme-moi. Enferme-moi, comme ça, je verrai plus personne.
Mais c'est une idée, oui. Ça t'évitera de traîner des fachos.
Un extrait de l'émouvant film « Jouer avec le feu » sorti le 29 janvier 2025. Un film qui fait déjà beaucoup d'entrées, qui est signé Delphine Coulin et Muriel Coulin. C'est Vincent Lindon, vous aurez reconnu sa voix, qui joue le père, et Benjamin Voisin qui joue le fils. Un fils qui rentre dans un mouvement identitaire et qui s'adonne au MMA, ce sport extrêmement violent dont on dit qu'il n'y a pas de règles. Enfin, il y en a quand même un peu, et qui voilà prend des coups et en donne. C'est ça aussi qui motive beaucoup les jeunes, cette idée de d'aller se taper dessus.
Tout à fait. La question du passage à l'acte violent, c'est quand même quelque chose d'assez central dans un certain nombre de ces groupes. Et ce dont je parlais plus tôt, cette recomposition, cette porosité, etc., se fait et se voit, en tout cas, de notre point de vue et de mon point de vue de journaliste, notamment dans ces passages à l'acte violent. La tentative de descente raciste à Romans-sur-Isère, dont on a beaucoup entendu parler en novembre 2023, suite à la mort du jeune Thomas à Crépol, justement, c'est la quintessence, ou en tout cas, une des quintessences de la recomposition de l'extrême droite récente. On a 80 à 100 jeunes hommes, venus des quatre coins de la France, qui, le dimanche soir, à Romans-sur-Isère, ont parcouru parfois des centaines de kilomètres pour être là, se regroupent et se disent « on va aller agresser des gens dans un quartier spécifique d'où viendraient, d'après eux et d'après les rumeurs qui circulent à l'époque, un certain nombre des agresseurs présumés de cette histoire à Crépol, des centaines de kilomètres,
un jeune
peu importe leurs idées. »
A été tué. Du reste, Thomas, et on s'en souvient, et on avait parlé ici aussi du lycée à Crépol, où il faut parler aux jeunes qui sont scolarisés. C'est très, très impressionnant, cette histoire de descente. Est-ce qu'il y a d'autres exemples? On n'en entend finalement pas tant parler. Évidemment, Crépol, on en a entendu parler après. Mais de regroupements comme ça, qui ont pour objectif bien la violence, de rencontrer des adversaires, et lesquels d'ailleurs, pour cogner.
Il y a un autre exemple qu'on peut citer ici, qui a été aussi médiatisé, alors peut-être pas à très grande échelle, mais c'est le soir du match de foot France-Maroc, décembre 2022. On a un match de foot France-Maroc, et ce soir-là, le coup de sifflet du match vient d'être sifflé, et on a une intervention de la police dans un bar du 17e arrondissement, et on a une quarantaine de militants d'extrême droite qui sont interpellés, et qui, selon toute vraisemblance, s'apprêtaient à aller sur les Champs-Élysées pour agresser les supporters marocains. Ce qui est intéressant, c'est notamment la moyenne d'âge de cette quarantaine d'interpellés. 22 ans. Dans le lot, il y a 5 mineurs. On est quand même sur des groupes et un public jeune, si ce n'est très jeune. Et encore une fois, on a des profils assez variés au sens de leurs orientations politiques au sein de l'extrême droite ou l'extrême droite radicale. C'est-à-dire qu'il y en a qui viennent de différents groupes militants qui se sont donné rendez-vous ce vendredi soir-là dans un bar pour regarder le match ensemble.
Ça, c'est la spécificité contemporaine. Hein. On le redit, c'est le fait que voilà, ils se regroupent malgré des différences qui auparavant étaient les séparer davantage.
C'est ça, tout à fait. Là où auparavant, il y avait un certain nombre d'injonctions liées à leur appartenance à différentes structures qui avaient notamment différentes stratégies, et notamment pour un certain nombre de ces structures, une stratégie d'éloignement de la violence, en tout cas au moins en termes de communication. Hein. Évidemment, derrière des apparats parfois respectables, il pouvait tout à fait y avoir des violences, mais en tout cas, la violence devait rester sous les radars, sous le tapis. Une partie de ces injonctions ont disparu, c'est beaucoup plus facile d'assumer, d'aller faire le coup de poing avec, pour le coup, d'autres militants violents.
Et c'est ce qui est raconté aussi dans le film « Jouer avec le feu », sans tout raconter, Sébastien Bourdon. Alors, vous n'avez pas vu le film, mais je voulais quand même y revenir. Est-ce que le fait qu'il y ait des œuvres de fiction, comme ça, qui abordent cet engouement de la part de certains jeunes, dont on n'arrive pas non plus à complètement mesurer hein, la force pour les idées identitaires. Ça vous paraît nouveau, que ce soit abordé dans des fictions, qu'on en parle comme ça dans la culture mainstream?
Alors, je ne sais pas si ma culture cinématographique en la matière est suffisamment importante pour pouvoir dire si c'est nouveau ou pas. En tout cas, ça me paraît intéressant et c'est, je pense, une porte d'entrée vers la médiatisation, en tout cas la diffusion auprès du grand public de ces questions-là et de la question de la radicalité, la radicalisation d'un nombre croissant d'hommes, de jeunes, si ce n'est très jeunes hommes, en direction de l'extrême droite et l'extrême droite radicale.
Et en même temps, est-ce qu'on nourrit pas un peu leurs idées, en tout cas leur posture, en mettant d'un côté le bien, la modération, la tolérance, enfin je ne sais quoi, et des gens plus radicaux qui seraient que les réalisatrices de films et d'autres médias et d'autres acteurs de la culture montreraient du doigt comme des mauvaises personnes.
Alors, je sais pas si c'est le cas dans ce film ou pas, et je sais pas à quel point le propos est caricatural. L'idée, c'est en effet, enfin, c'est jamais très très intéressant ni très positif dans la compréhension d'un phénomène d'être caricatural.
Non, mais même sans l'être, vous voyez, il y a quand même des questions de posture et de posture morale. C'est aussi une posture que d'être contre ce qu'on appelle la morale dominante, quand bien même Elon Musk, je le redis, Donald Trump, enfin voilà, il y a plein de politiciens, plus ou moins de leurs idées, en tout cas d'extrême droite, qui sont au pouvoir à travers le monde. Donc, mais cette posture morale, est-ce qu'elle est pas contre-productive, pour revenir à ma question, dans leur esprit, hein?
Dans leur esprit, elle l'est. Ils trouvent ça extrêmement caricatural et ils renvoient tout ça à des élucubrations de boomers, pour reprendre un terme qu'ils utilisent beaucoup, qui ne sont pas les seuls à utiliser, évidemment. Mais je ne suis pas sûr, en tout cas, que ça permette de les convaincre, eux, et de les faire changer d'avis et d'idées.
Ce qui ne dit rien du film, qui est, je l'ai dit, extrêmement émouvant. Alors, dans ce qu'on s'est raconté en préparant l'émission, Sébastien Bourdon, j'ai été très étonnée par une dimension aussi des représentations de la violence, où tout se mélange parce qu'il y a un petit brouillage des valeurs, et où on a pu voir des liens qu'on puisse créer sur la toile, par exemple, des jeunes qui se parlaient d'attentats, de nazisme, mais aussi de djihadisme, dans une espèce, et c'est un article du Monde qui a 2 ans qui raconte ça, dans une espèce comme ça, de fantasmes complètement tournés vers la violence, où finalement les symboles nourrissent un imaginaire qui veut surtout se renforcer dans une détestation presque du monde. Enfin, vous pouvez peut-être décrire ça mieux que moi.
Alors tout à fait. Déjà, juste pour la toile de fond, on constate 2 choses. On a une augmentation ces dernières années du nombre de dossiers terroristes liés à l'extrême droite, premièrement. 13 affaires entre 2017 et 2023, d'après les chiffres qui avaient été donnés par Gérald Darmanin à l'époque, et par ailleurs une augmentation également du nombre de mineurs impliqués dans des dossiers terroristes, pas uniquement d'extrême droite pour le coup, mais entre autres d'extrême droite. L'exemple que vous évoquiez de cet article du Monde, c'est un exemple en effet très intéressant qui se construit, qui est une histoire d'un projet terroriste qui s'est construit autour de 4 jeunes, 3 garçons, une jeune femme, qui au moment de leur interpellation, il y en a 3 sont mineurs et le quatrième est tout juste majeur, il a 19 ans. Et en effet, ça peut paraître assez surprenant d'un point de vue extérieur, mais quand on s'intéresse aux écrits de ces jeunes, à ce qui se raconte dans leurs messages, etc., eh ben, certains d'entre eux mêlent une fascination entre djihadisme et nazisme. Ça peut paraître complètement délirant, mais c'est le cas. On a notamment cette jeune Leïla, c'est comme ça qu'elle est, c'est évidemment un pseudo, c'est le pseudo qui lui est donné dans l'article du Monde, qui est une jeune femme qui vient d'un milieu extrêmement, qui vit dans une famille extrêmement précaire dans le sud de la France, qui, elle, hésite entre le djihadisme et le nazisme, qui est en lien avec un jeune homme d'origine franco-japonaise à Paris, qui pour le coup vient d'un milieu extrêmement privilégié, qui a sauté plusieurs classes, qui est en prépa littéraire, qui lui hésite entre Al-Qaïda et l'État islamique, et qui ensemble sont en lien avec 2 jeunes hommes, un en Alsace, un en Normandie, qui eux sont des nazis convaincus. Et ces 4 adolescents ou tout jeunes adultes échangent beaucoup et projettent des attentats ensemble. Ils hésitent sur les cibles: une mosquée, une synagogue, une école, un lycée, ça c'est quelque chose qui revient à la fois dans ce dossier, mais dans d'autres.
Il y a une fascination aussi de la part d'un public, alors il est restreint évidemment, ultra-violent, pour les school shootings, parce que c'est un nom évidemment américain, parce qu'aux États-Unis, parce que les armes aussi circulent, il y en a un certain nombre.
C'est ça, il y a une fascination pour les tueries de masse aux États-Unis, notamment celles ayant visé des écoles, notamment la tuerie de Columbine. Mais ce qu'on constate, notamment dans ce dossier-là, mais dans d'autres, en France, c'est également l'importance de l'assassinat de Samuel Paty, et plus récemment de le meurtre de Dominique Bernard. Cette jeune Leïla, que je citais dans ce dossier, qui hésite entre djihadisme et nazisme, sur sa table de chevet, c'est extrêmement... glaçant comme détail, elle a une photo imprimée de la tête décapitée de Samuel Paty. Oh. Ça dit bien quelque chose dans l'importance de cet événement auprès de ces jeunes et dans le fait que, à travers cet exemple-là entre guillemets de leur point de vue, l'école peut être une cible, si ce n'est et potentiellement une cible privilégiée, puisque ce qu'on a en toile de fond.
Parce que l'école est un ennemi.
C'est ça, ce qu'on a en toile de fond sur la quasi-totalité, en tout cas des dossiers sur lesquels moi j'ai pu me pencher, de dossiers terroristes en lien avec l'extrême droite, mais pas uniquement, c'est la question du harcèlement scolaire en arrière-plan. Il y a un autre cas d'un jeune homme qu'on a surnommé Nicolas, sur lequel j'ai écrit en 2022 un article pour Mediapart, qui avait 16 ans à l'époque, qui lui hésitait entre le stalinisme et le nazisme. Encore une fois, ça peut paraître assez fou, mais il ne faut pas surestimer justement cet enjeu de la cohérence doctrinale dans les profils de ces jeunes. Il a publié il y a un an maintenant un texte qui présente un peu comme son journal. Il a été temporairement incarcéré dans des conditions que je détaillerai pas ici. Et le point de départ de son journal, c'est il raconte. Alors il y a un côté très mégalomaniaque où il dit qu'il est d'une intelligence hors norme, etc. Mais il dit le point de départ de toute mon histoire, c'est le harcèlement scolaire que j'ai commencé à vivre dès mon plus jeune âge à l'école. Et il déroule, mais en disant vraiment que c'est ça le point d'orgue. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de dossiers.
Intéressant. Alors, dans la première partie, Marwan Mohamed, on a parlé des jeunes des quartiers populaires. Donc, c'est pas du tout la même jeunesse, en tout cas, que la jeunesse identitaire, bien sûr. Est-ce que la question du harcèlement scolaire affleure dans vos entretiens? Je vais vite parce que c'est bientôt la fin de l'heure. Où Julien, vous me l'avez dit. Et est-ce que ça peut, comme une forme de réponse funeste, nourrir une fascination pour la violence? Alors, évidemment, pas tous les jeunes. Mais les jeunes qui s'engagent dans des processus
Ça ne s'est pas présenté principalement comme ça, mm-hmm, dans le cadre de mon travail. Par contre, ce que je voulais dire, c'est qu'en écoutant Sébastien, en fait, ce qui me frappe, c'est qu'on a une jeunesse identitaire qui méprise la jeunesse des quartiers populaires racisés. C'est vraiment un ennemi suprême. Dans les quartiers populaires, on parle peu des jeunesses identitaires. En tout cas, c'est pas trop un sujet. Et finalement, ils se croisent pas tant que ça. Je sais pas si c'est vrai, alors que dans les années 80-90, la place parisienne était une place d'affrontement physique très forte entre une alliance antifa, jeunes des quartiers populaires et les jeunes des groupes suprémacistes. Donc,
oui, c'était nourri par plein de représentations. Il y avait toute une scène musicale qui parlait de ça aussi. C'est vraiment une culture.
C'est ça qui me frappe.
Très ancienne, qui paraît ancienne aujourd'hui.
Et par contre, j'ai lu 2-3 études, alors je ne sais pas si elles sont représentatives, mais qui montraient aussi que, y compris dans les jeunesses identitaires, dans les groupuscules violents, suprémacistes, il y avait quand même beaucoup de jeunes hommes de milieux populaires ou de petites classes moyennes. Donc, ce n'est pas forcément la même sociologie, mais il y a quand même. Des analogies qui peuvent être faites dans le profil social et les trajectoires, le rapport au masculinisme, l'origine sociale de départ, le parcours scolaire pour une partie d'entre eux, entre ces différentes formes de jeunesse.
Est-ce que si je fais une troisième partie à cette émission, il faut que j'interviewe un anthropologue pour parler de la violence et de ce qu'elle signifie chez les jeunes garçons qui recherchent peut-être une identité
dans la quête de soi? On peut tirer le fil.
Merci beaucoup. Je conseille à tout le monde la lecture de Ya Embrouille. C'est chez Stock en tout cas. Merci Marwan Mohamed. Et celle de Drapeau Noir, Jeunesse Blanche, le livre que vous venez de publier, Sébastien Bourdon. Au seuil, enquête sur le renouveau de l'extrême droite radicale. Merci également à vous, Julien, d'avoir été avec nous ce soir.